15h. De passage à Lourdes. Nos invités aujourd'hui sont Hubert Peignet et Elisabeth de Dinchin. Bonjour à vous, bienvenue dans cette émission.
Bonjour, merci.
Bonjour.
Vous êtes à Lourdes au sein d'une association qui accomplit son pèlerinage. Cette association s'appelle Relais Lumière Espérance. Et elle rassemble des personnes qui ont un proche qui est frappé par une maladie psychique. On dit que dans la population française, il y a près de 3% de cette population, de notre population, qui est frappée par une maladie psychique. Alors, dès qu'on va prononcer le nom de ces maladies, un certain nombre qui nous écoutent peuvent être effrayés parce qu'ils l'associent peut-être à un fait divers. La schizophrénie, par exemple. La bipolarité. Et vous, vous rassemblez, monsieur le président, puisque Hubert Peignet, vous êtes le président, des familles, des personnes qui sont touchées, non pas directement eux-mêmes, mais dans leur entourage. Vous avez tous les deux une expérience personnelle, puisque vous, Elisabeth de Dinchin, votre fils, à l'âge de 16 ans, a eu une bascule qui a fait que, aujourd'hui, à 42 ans, il est reconnu comme ayant une maladie psychique, mais il a une vie spéciale. Vous également, Hubert Peignet, votre fils, qui a quel âge aujourd'hui ?
42 ans.
42 ans. Et ces histoires sont toutes des histoires difficiles à raconter, Elisabeth de Dinchin.
Oui. Oui. C'est vrai,
très difficile. Parce que pour une maman, vous avez eu 7 enfants. Le numéro 6, le petit 6e, on projette comme sur tous les autres, beaucoup d'espoir, d'espérance, de projets.
Oui.
Et puis un jour, il y a une bascule.
Oui, et c'est un choc.
Oui.
Un choc, tout s'effondre. On ne comprend pas. Il se retrouve en hôpital psychiatrique. On ne comprend plus ses réactions. On ne sait plus ce qu'il pense. En général, les symptômes avant, les signes avant l'hospitalisation, c'est l'enfermement. Il reste dans sa chambre, il ne parle plus, il vit la nuit, il écoute de la musique très fort, il prend ses repas seul, et ça complique toute la vie familiale. Puis il y a un moment, soit à suite de violences, soit parce qu'il peut mettre sa famille en danger, il y a hospitalisation.
Pour votre fils, il y a eu aussi des stupéfiants ou bien de l'alcool qui peut être un facteur déclenchant. Cette fragilité se révèle à ce moment-là.
Oui, ça révèle quelque chose, mais... Comment dire, ce n'est pas ça qui provoque, ça met à jour la maladie.
Oui.
Mais souvent, s'ils utilisent alcool, enfin, à mon avis, s'ils utilisent de l'alcool ou du hash, c'est pour calmer cette angoisse qui les envahit de plus en plus et qu'ils n'arrivent plus à maîtriser.
Ce jour-là où on vous appelle et on vous dit, votre fils, on ne va pas donner son prénom par respect pour lui... Eh bien, il est là et on l'a enfermé, ou je ne sais pas où il est à ce moment-là, mais en tout cas, on l'a récupéré en piteux état. C'est un choc, vous êtes dans le déni jusque-là, comme parent.
Je dirais qu'on est, comment dire, le choc, enfin vraiment le choc, en se disant, mais qu'est-ce qui se passe ? J'aurais envie de dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi.
Oui.
Voilà, pourquoi moi ? Et puis, il y a aussi un sentiment de honte, parce que, comment dire, il ne fait pas bon de dire que son fils est
schizophrène.
Est schizophrène. Mais là, on ne le savait pas encore. Il faut beaucoup de temps pour que les médecins osent poser un diagnostic, pour ne pas l'enfermer dans ce diagnostic. Mais avant le diagnostic, mon fils a eu un accident grave, qui a entraîné une hospitalisation, puis, au cours de l'hospitalisation, un renvoi en hôpital psychiatrique. Eh bien, c'était difficile, voire impossible, de dire, même à ma famille, il a été transféré dans un hôpital psychiatrique. Parce que nous avons tous une image très négative. de ce qu'est un hôpital psychiatrique.
Bien sûr.
Donc ce sentiment de honte, très
donc,
fort.
Donc honte, sidération, honte, culpabilité. Vous ressentez la même chose, vous, Hubert Peignet, lorsque vous comprenez que votre fils part sans doute un événement fort. Hein.
Oui.
Il est frappé par une maladie psychique.
Alors nous avons eu la chance, je ne sais pas pour quelle raison, d'avoir peu et rapidement, pas du tout, cette réaction de honte et de culpabilité. Mais c'est comme ça, je n'ai pas d'explication. En revanche, ce que je vois, c'est que quand nous en parlions, beaucoup de gens, parce que assez rapidement, on nous posait des questions. Et un peu bizarrement aussi, on a répondu en disant ce que nous savions, c'est-à-dire, bah oui, notre fils, il a quelque chose, comme l'a dit Elisabeth, on n'a pas tout de suite trouvé, en l'occurrence schizophrénie lui aussi, mais on décrivait ses difficultés. Et la réaction était souvent une réaction de peur, effectivement. Alors, vous évoquiez notre mouvement Relais Lumière Espérance. Une chose qu'on a apprise et qu'on essaie de dire tout de suite aux personnes qui nous rejoignent, c'est, premièrement, vous évacuez tout ce qui est honte et culpabilité. C'est mauvais, c'est stérile, c'est vraiment évacué. Et en le faisant, ce n'est pas un processus psychologique, c'est un processus fondamental.
De libération.
De libération,
oui. Vraiment. On aura l'occasion de reparler, bien entendu, dans cette émission, du rôle spécifique de Relais Lumière Espérance, qui ne remplace pas du tout toutes les grandes associations hein, qui accompagnent les familles face à ces souffrances psychiques. On pense à l'UNAFAM. Vous, vous avez un rôle spécifique et notamment vous répondez à cette attente spirituelle qu'il y a chez un certain nombre de parents et de proches de ces personnes frappées par les maladies psychiques. Continuons sur vos histoires, la sidération passée, la culpabilité aussi. Comment on peut quand même construire? Parce que ça déstabilise tout. Vous disiez, comme maman, vous avez été profondément touchée. Oui. Mais c'est toute la famille qui est touchée, Elisabeth
oui.
de Dinchin.
Oui, c'est toute la famille. Il y a une réaction de déni. C'est-à-dire que les frères et sœurs, bon, ça se passe ils ont entre 20 et 25 ans, eh bien, ils se donnent à fond dans leurs études, ils en profitent pour faire des voyages à l'étranger, et ils essayent de ne pas trop savoir ce qui se passe à la maison. Avec la famille plus élargie, les réactions sont aussi, à ce moment-là, ont été dures, parfois, à comprendre. Mais il n'y a qu'à secouer un peu, si son père était plus sévère, si, il n'y a qu'à. Alors qu'il était épuisé, il était triste, il était silencieux, et on ne savait pas quoi faire.
Forcément, la maman que vous êtes en parle avec plein d'émotions.
Oui, parce que ça réveille des tas de souvenirs douloureux.
Oui.
Douloureux, parce que cette période a vraiment été une période de grande souffrance. De souffrance à tel point que j'ai éprouvé le besoin de me faire aider par une psychologue, oui, je crois qu'elle était psychologue, pour déposer mon paquet, parce que je sentais une incompréhension autour de moi. Et donc, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de comprendre, et pour cela, il n'y avait que des gens qui connaissait un peu la maladie, qui pouvait m'aider.
Elisabeth parle avec son cœur de maman. Alors vous, votre cœur de papa, Hubert, oui, forcément.
Je me retrouve tout à fait dans ce que dit Elisabeth. Les réactions de la famille, des amis, etc. Il se trouve que dans ma belle famille, en l'occurrence, il y a des médecins. Leur réaction a été exactement la même, c'est-à-dire, en l'occurrence, le déni, il était chez eux. Mais voilà, qui se bouge, vous vous y prenez mal, vous imaginez tout genre de choses qu'on entend. Et on fait comme on peut dans ces cas-là. Moi, ce qui m'a frappé très tôt, parce que c'est vraiment ça qui m'a touché le plus, c'est, je me suis dit, rapidement, toutes ces idées qu'on avait, les projets qu'on faisait pour lui, parce que l'avenir, toujours difficile, mais difficile comme pour tout le monde. Hein. Mmh. Il était plein de promesses tout de même. Et en quelques semaines, quelques mois, peut-être pas tout de suite les premiers jours, mais rapidement on se dit, mais hop, c'est effondré. Tout ça, qu'en sera-t-il plus tard? Je ne sais pas, mais tout ça, ça disparaît. Et ça, ça fait très mal. Et en même temps, en tout cas pour moi, je me suis rendu compte que celui qui souffrait le plus, c'était lui. bien sûr. Hein. Et on ne sait pas comment, enfin, on ne peut pas le dimensionner, l'évaluer. Mais on voit bien que la souffrance principale, c'était la sienne. Et je veux dire que c'est ce qu'on constate chez beaucoup de gens. Et puis une dernière chose, puisqu'on parlait de la famille, l'entourage. Nous avons eu la chance que nos enfants, qui sont venus après lui, ont accepté de participer à des journées dites frères et sœurs de l'OCH, Office chrétien des personnes handicapées. Ça leur a fait beaucoup, beaucoup de bien.
Là aussi, on reparlera de l'OCH parce que c'est vraiment une association, enfin une organisation qui est très proche de vous, de Relais, Lumière, Espérance. Toujours une question qu'on se pose, est-ce que malgré eux, ces personnes hein, qui sont dans cette fragilité ne captent pas toute l'attention de la famille ou des parents, au point que les autres, ils se sentent parfois un peu, pas délaissés, mais moins en tout cas pris en compte dans leurs besoins, dans leur trajectoire.
Oui, c'est évident. C'est évident. Et c'est pour ça qu'ils investissent beaucoup dans... Enfin, moi, les miens ont beaucoup investi dans leur échange Erasmus, les échanges aller loin, aller le plus loin possible.
Ils s'échappent, oui. Ils s'échappent. Ils partent.
Bon. Et puis, ils étaient aussi un peu dans le déni, quoi, parce qu'ils disaient, vous lui avez toujours tout passé, et voilà, quoi. Voilà le résultat.
Aujourd'hui, vous en êtes où ? Est-ce qu'on réussit à recoller les morceaux ? De la famille, en tout cas, déjà, parlons de ça.
Oui. Bon, peut-être par un événement triste, quand j'ai perdu mon mari, on a fait bloc, il y a 10 ans de ça. Et à ce moment-là, voilà, ça, il y a quelque chose qui nous réunissait tous, et on a fait bloc, pour vivre cette réalité tous ensemble. La réalité du décès, mais aussi la réalité d'un frère malade.
Il est à la maison encore, votre fils ?
Pas complètement. Il a censément un appartement, mais il vient très souvent à la maison.
Nous allons nous arrêter quelques instants dans cette émission. Juste après, nous reprenons ce dialogue avec vous, Hubert Peignet. Vous êtes président de l'association Relais Lumière Espérance, ce mouvement chrétien qui propose aux familles, aux proches de personnes frappées par une maladie psychique de se rassembler, de vivre un temps, en particulier dans leur attente spirituelle, pour les accompagner dans ce chemin difficile. Et puis vous aussi, on reste en compagnie d'Elisabeth de Dinchin. Merci à tous les deux d'être là. À tout de suite.
Présence. Halte spirituelle. C'est une invitation à découvrir les réponses que la foi chrétienne peut apporter à nos préoccupations communes. C'est aussi l'occasion de réfléchir à ce que le mot « croire » signifie, en se nourrissant de l'expérience de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi.
Halte spirituelle, tous les jours à 6h15. Intégrale le samedi à 23h.
De passage à Lourdes.
Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet compliqué, difficile, parce que tout ce qui est humain touche à la souffrance et est difficile, c'est la souffrance psychique. Grâce à vous, Relais Lumière Espérance, cette association qui est en pèlerinage à Lourdes, nous portons un regard sur cette réalité, cette souffrance psychique dont nous disions qu'elle frappe un grand nombre de nos concitoyens en France, puisqu'on avance parfois le chiffre de plusieurs millions, 2 millions de personnes Hubert Peignet, c'est à peu près ce qu'on dit. Hein.
C'est à peu près ça, oui. Qui sont concernés directement, personnellement, par la maladie psychique.
C'est énorme. Enfin, ça veut dire qu'il y a énorme. Beaucoup, beaucoup de personnes qui sont touchées par la schizophrénie, la bipolarité, des dépressions profondes.
Tout à fait.
Et vous aussi, dans vos familles, vous avez été touchés. Elisabeth de Dinchin et Hubert Peignet. On parlera de votre expérience à Lourdes, ce pèlerinage que vous vivez. Mais là, on entre peut-être dans la vie de l'association. Vous, je n'ai pas posé la question à Hubert Peignet. Comment va la famille aujourd'hui ? Parce que vous nous avez raconté un peu votre histoire, celle de votre fils et puis de la famille. Vous en êtes où aujourd'hui ?
Alors, notre fils habite chez nous et nous savons que beaucoup de gens nous disent « Mais non, il ne faudrait surtout pas que... Bon, » Notre conscience nous dit qu'actuellement, c'est mieux pour nous, pour lui, d'abord pour lui, de faire comme ça. Donc, il est chez nous. Il est à enfin, plutôt bien rétabli, ce qui veut dire que ça n'est pas du tout... Il n'a pas repris le fil antérieur, c'est sur une autre démarche maintenant. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que Elisabeth le disait pour sa famille à elle, on a constaté la même chose, c'est-à-dire une famille qui se ressoude autour de lui. Son frère cadet qui est solidaire, qui l'emmène, qui le sollicite pour des choses, les autres aussi, etc. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des clashs ici ou là, bien sûr, hein, mais on sent que tout le monde a conscience que la première richesse de tout le monde, chacun, les valides, les moins valides, etc., les parents, les jeunes, c'est la solidarité familiale. Et on sait bien que quand elle existe, elle s'étend rapidement, elle n'est pas limitée à la famille.
C'est contagieux. Hein,
c'est
ça,
contagieux, oui. Voilà. Oui. Et les gens le sentent et puis ils viennent avec nous. Enfin, c'est ça qui est d'ailleurs très bon pour les personnes malades, qui restent malades.
Votre fils Elisabeth, il est devenu un spécialiste dans un domaine. Dans quel domaine, vous m'avez dit déjà ?
L'entomologie.
Il est reconnu comme un entomologue.
Entomologiste.
Entomologiste, pardon, oui. C'est-à-dire que c'est un spécialiste des petites bestioles.
Voilà, il se passionne pour ça, il va les chercher aux quatre coins de la France ou du monde. Il travaille avec une association spécialisée à Lyon sur cette question-là, où il n'y a que des amateurs, mais des amateurs qui sont professeurs à l'université, qui sont
très discute d'égal à égal avec ces gens-là.
Tout à fait, oui. Et puis, il est habilité aussi à aller au Muséum d'Histoire Naturelle pour les aider dans le rangement des bêtes, dans le rangement des cartons, dans le bon état, l'entretien des collections. Quoi.
Mais de votre côté, il faut toujours veiller au grain pour qu'il gère son quotidien.
Quotidien, c'est une autre affaire, oui. C'est quelque chose de très dur et c'est ça les conséquences de la maladie. C'est-à-dire que, effectivement, la nourriture, le logement, l'argent, le rapport à l'argent sont compliqués et n'ont pas d'importance pour lui. Les papiers administratifs, c'est aussi tout un drame, quoi.
Alors, cette association Relais Lumière Espérance, ce mouvement chrétien, dites-nous, Hubert Peignet, vous qui en êtes le président, ça rassemble quelques 1000 adhérents, mais c'est beaucoup plus de d'accompagnement que les 1000 adhérents et le chiffre qu'il faut prendre en compte sans doute. Parlez-nous de cette association. Pourquoi existe-t-elle d'abord ?
Elle a été créée par quelques personnes, on retrouve l'OCH, donc il y a 35 ans, qui étaient liées à l'OCH, voire fondatrices de l'OCH, et qui ont senti une forte demande de la part de familles, déjà à l'époque, touchées par la maladie psychique d'un proche. C'est un mouvement qui, dès le début, s'est bâti sur quelques noyaux, en particulier Paris-Île-de-France, plutôt d'ailleurs Île-de-France que Paris stricto sensu, qui a peu à peu essaimé dans différents coins de province, ce que de Paris on appelle la province. Donc par exemple, aujourd'hui, on a des pôles assez forts dans l'Ouest, en particulier Nantes, mais pas seulement, Bordeaux, certains pôles dans l'Est, etc. Par contre, il y a des secteurs entiers de la France où il n'y a pas grand-chose. L'objectif du relais, il est vraiment double. C'est le soutien humain, à ne jamais oublier, et le soutien spirituel. Par comparaison avec l'UNAFAM que vous citiez, l'UNAFAM, c'est soutien humain, bien sûr, mais non confessionnel, et un soutien technique, administratif, financier, etc., conseil, que sais-je. Et ça, Relais ne va pas du tout dans ce domaine-là. Donc Relais, spirituel, humain et spirituel, mais avec, je pense, deux dimensions. La première, c'est l'aide aux familles, l'aide aux personnes, et d'autre part, et c'est dans nos statuts, comment aider l'Église à mieux insérer ces personnes, à mieux les accueillir en son cœur, comme ce que vous avez vécu en septembre au rassemblement des pastorales des personnes handicapées, passionnément vivant. On a vu des centaines de personnes handicapées et non handicapées ensemble, tout handicap. Et c'est vraiment l'objectif, c'est que l'Église, alors ça peut être un évêque, une pastorale des personnes de la famille, ça peut être, que sais-je, les paroisses, etc., qui prennent de plus en plus conscience que toutes ces personnes fragiles, c'est le cœur de l'Église. Comme les personnes pauvres et les personnes précaires. Enfin, on ne va pas inventer. Voilà.
Elisabeth de Dinchin, vous vouliez ajouter sans doute sur l'action de cette association, parce que vous vivez dans le concret, vous.
Non, mais cette année, à ce congrès, à ce pèlerinage, nous avons une équipe de Genève. Exact. Voilà. Exact.
Donc ça SM, c'est ce que vous dites.
Ça SM, oui. Voilà.
Au sein de cette association, vous trouvez, Elisabeth de Dichin, qu'on peut parler différemment de, sans doute, d'autres milieux dans lesquels on parle de la maladie psychique. On peut se livrer différemment.
Oui, certainement. Parce que, si vous voulez, nous avons toujours un conseiller spirituel, un prêtre ou quelqu'un formé pour l'accompagnement spirituel. Et donc, on ose dire les pensées profondes qui nous semblent aller contre ce que nous dit l'Évangile. Par exemple, on citait aujourd'hui des gens qui disaient, bien, un jour, on est arrivé à dire, nous pensons souvent, et s'il était mort, ça serait quand même plus facile. Mais cette pensée-là, qui est un signe de mort, on ose la dire devant un groupe de chrétiens, parce qu'on sait que par la mort, après la mort, il y a la résurrection. Et que donc ces pensées de mort, traversées par la vie du Christ, conduisent à vivre autrement, quoi, enfin.
D'ailleurs, le rassemblement, c'est choisis la vie.
Choisis donc la vie.
Choisis donc
c'est
la vie.
C'est amusant qu'on a rajouté le donc par rapport au texte du Deutéronome. Oui. Parce qu'on, finalement, je ne sais plus qui l'a dit, tout le monde dit, mais oui, c'est donc la vie. C'est donc, c'est-à-dire que vraiment, c'est, on se décide décidément.
Oui, après des hauts et des bas, voilà. Choisis donc la vie.
Voilà, choisis donc la vie.
Ça. Voilà. Oui. Et ça simplifie la vie.
Bon. Et alors, cette dimension que dit Elisabeth, c'est-à-dire ne pas se sentir jugé, ça c'est vraiment le critère. Quand on entend les gens autour de nous, nos pèlerins, nos amis, etc., dire, ou ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, à Relais, je ne me sens pas jugé, je suis libre de parole. On se dit, bon, ça va, on est sur la bonne voie. Mm. Et oui, ils ajoutent, je ne trouve nulle part ailleurs cette possibilité. De ne pas être jugé, de pouvoir aller librement, etc. Voilà. J'entends.
Ce que vous vivez à Lourdes, est-ce qu'on peut un peu en parler? C'est tous les 5 ans que le relais Lumière Espérance vient à Lourdes. C'est un lieu spécial, Lourdes.
Oui, c'est un lieu spécial. Oui, il faut me dit rentrer, Elisabeth. Oui, il faut rentrer dans cette ambiance de procession, de chapelet. De... Bon, ça ne correspond pas à ma spiritualité profonde, mais j'ai choisi de venir et de rentrer dans cette spiritualité de Lourdes de tout mon cœur pour me laisser guider par la Vierge, oui, pour me laisser... Oui, guérir, peut-être, quelque part. Quoi, comme, puisqu'à Lourdes, on vient pour être guéri.
Oui, c'est un lieu où on reçoit des cadeaux.
Voilà.
Enfin, pas ceux qu'on attend, généralement. Ça n'est pas votre spiritualité, disiez-vous. C'est-à-dire que, finalement, vous n'y seriez pas venu de façon volontaire, seul.
J'y suis venu et ça n'avait pas été bien. Voilà. Et donc, il a fallu vraiment que mes amis de relais m'invitent, insistent, et que moi, je fasse le choix de la vie, voilà. Puisque c'était le thème, j'ai dit oui, c'est un lieu de vie, donc j'y vais.
Que vivez-vous, Hubert, avec ce groupe à Lourdes? Vous êtes quelque 230 personnes.
230 personnes, c'est ça, oui. Ce qu'on vit, c'est d'abord une grande diversité, ce qui fait que quand il y a des témoignages, par exemple, on est confirmé, conforté dans l'idée qu'on s'écoute et qu'on s'accueille les uns les autres. C'est plus que du respect, c'est du respect bien sûr, mais c'est même plus que ça. C'est ta différence m'enrichit, c'est toute cette dimension-là. C'est effectivement une très grande confiance dans ce que nous apporte la foi. Ce matin, Jérôme Olibé, qui est bien connu ici, donc qui s'occupe des demeures des sources vives, et que vive ici, non, je confonds avec quelqu'un d'autre, qui nous a rappelé la parole de Bernadette. Je ne suis pas là pour vous le faire croire, mais pour vous le dire. Bon, et on est pleinement dans cet esprit-là. Et donc, on est vraiment sur une question de confiance. C'est-à-dire, quand on vient en confiance, y compris ceux qui, d'habitude, nous seraient un peu bizarres, étrangers et tout, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup se rendent très facilement dans la spiritualité de Lourdes, ou l'une des facettes, d'autres pas. Mais ici, tout le monde y vient. Et on se le dit.
Allez-y, Elisabeth.
Une dernière chose, oui. C'est que on vient aussi pour déposer son paquet. Très juste. Dans la prière, et soutenu par la prière des autres et de la prière de tous ceux qui sont à Lourdes. Voilà. Et cette notion de prière, qui a quand même une très forte dimension pour nous tous, là, on l'élargit à tous les malades qu'on rencontre à Lourdes. Et on porte leur
fardeau, leur
voilà.
Souffrance.
Et nous, on dépose le nôtre. Oui. Cette espèce de communion en Christ, quoi. Enfin.
Il nous reste à donner une information pratique concernant Relais Lumière Espérance, ce mouvement magnifique. Il y a un site internet,
oui.
www.relaislumièreespérance.fr,
voilà,
tout est attaché.
Tout attaché.
Relais, R-E-L-A-I-S, hein.
Voilà.
relaislumièreespérance.fr, tapez ça sur internet, vous trouverez des informations sur cette association. Il y a autre chose à ajouter, Hubert Peigné?
Non, comme dans beaucoup de domaines, on dit « venez, voyez ». Ce qu'on entend, c'est les gens qui nous disent « je ne connaissais pas, j'ai fait connaissance, ma vie a changé ». C'est peut-être très, très fort de dire ça.
Non, mais j'ai adopté.
Voilà. Oui. Vraiment, il y a un avant et un après.
Donc il y a des groupes,
Nous n'est responsable de ça, c'est-à-dire, on le vit ensemble.
Il y a des groupes un peu partout, enfin on espère un peu partout de plus en plus.
Voilà, pas assez, mais ça se développe, oui.
Merci à tous les deux. Merci à Elisabeth de Dinchin et à Hubert Peigné de Relais Lumière Espérance. Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Présence. Présence. De passage à Lourdes. Dans l'émission Témoins, qu'ils soient laïcs ou religieux, des chrétiens témoignent de leur rencontre avec le Christ et nous racontent cet instant qui a changé leur vie. Ils partagent ainsi leur joie de croire et annoncent avec leurs mots cet amour que nous sommes tous appelés à vivre.
Témoins sur Radio Présence, les lundis et le dimanche à 11h.
Spirito mi santo, oh Lord. Amen.